Ainsi parle le prophète Ésaïe. Vous, les assoiffés, accourez vers l'eau, même pauvres et humiliés, venez, écoutez, écoutez mes paroles qui nourrissent, écoutez-moi, venez à moi et vivez. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Père, tu es là au milieu de nous. Ce temps de culte, tu nous l'offres pour accueillir une parole qui féconde notre existence. Ce temps de culte, tu nous le donnes pour partager avec des frères et des sœurs notre adoration et notre prière. Levons-nous et chantons le premier spontané. Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Le 51-10, strophe 3.
Laisse-nous, Seigneur, entrer dans ta maison. Laisse-nous venir chez toi. Laisse-nous, Seigneur, partager ta moisson. Laisse-nous chanter avec toi.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de culte à vous qui êtes présents dans ce temple. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois ou habitués de ces bancs. Sentez-vous accueillis. Olivier éclairera la parole de Dieu par sa prédication. Pour nous accompagner, je voudrais remercier Marie-Vonne à l'animation musicale et Florence à l'accueil fraternel. Nous chanterons les spontanés que vous trouverez dans le feuillet en première page du petit recueil. Est-ce que vous avez pris la recueil? Et puis il y aura deux cantiques affichés sur le tableau. Eh bien, je vous propose que nous nous levions pour louer Dieu. Tu es l'imprévisible, tu es le vivifiant, tu es l'esprit qui souffle où on ne l'attend plus, tu es flamme et souffle qui jamais ne s'arrête. Et c'est pourquoi brille toujours au cœur de la difficulté de vivre la petite lumière obstinée de l'espérance. C'est un texte de Michel Boutier. Je vous invite à... Donc, ben c'est maintenant, il fallait que vous le liez, c'est pas grave. Et nous allons chanter donc le cantique 138 à la page 154. Que tout mon cœur soit dans mon chant, et nous chantons les trois strophes.
Je te rends grâce en ta maison.
La grâce de Dieu nous conduit à la repentance. Nous prions avec les mots d'un dévot à Vishnu. Trois fautes. Premièrement, je suis allé en pèlerinage à tes nombreux sanctuaires, oubliant que tu es partout. Deuxièmement, j'ai si souvent imploré ton aide, en oubliant que tu es plus soucieux de mon bien-être que je ne le suis moi-même. Et finalement, je suis en train de te demander de me pardonner quand je sais très bien que nos fautes sont pardonnées par toi avant même d'être commises. Nous restons assis pour chanter le spontané de tous mes maux, il me guérit.
De tous les maux, il me guérit, et par les jours, on a relié sur son chemin, mon Dieu.
Pour accueillir avec Matthieu cette parole qui nous pardonne tel que nous sommes, je vous invite à vous lever. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux, car notre Père nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Chantons notre reconnaissance en restant debout pour chanter le spontané du pardon, ô ma joie et mon espérance. La volonté de Dieu. Dieu n'a pas de main, il a les nôtres. Il accepte les nôtres pour dire aux autres son amour. Il accepte nos mains comme il accepte et accueille chacun de nous dans sa famille comme cela, gratuitement, par amour. Il partage avec nous son amour, son pardon. Dieu n'a pas de main. Il a les nôtres. De ton esprit, emplis nos êtres.
De ton esprit, emplis nos êtres. De ton amour, emplis nos êtres.
nous prions avant de lire les Écritures. Ta parole, Seigneur, comme ton silence, sont parfois bien mystérieux. Tu te tais, tes disciples racontent et nous, nous écoutons. Mais comment comprendre ce que tu veux nous dire? Il nous faut ton esprit, Seigneur, pour éclairer tes Écritures. Alors, nous te le demandons dans la prière, envoie sur nous ton esprit et tout deviendra clair et vivant pour nous. Amen. Je laisse la parole à Olivier pour la lecture de la Bible et la prédication. Bonjour à tous. Je vous propose deux textes aujourd'hui. Le premier texte est de Paul dans son courrier aux Philippiens, en 2, 5 à 9. Et le deuxième, c'est de Luc 17, de 20 à 21. Commençons par celui de Paul. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'un esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être retrouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Passons au texte de Luc. Aux pharisiens qui demandent « Quand viendra le règne de Dieu ?» Jésus répond « Le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas « Le voici » ou « Le voilà ». En effet, le règne de Dieu est parmi vous. Je vous invite à vous lever et à chanter le spontané « Souffle du Dieu vivant ». Avec ces deux textes, je vous propose de réfléchir à la représentation que nous pouvons nous faire de Dieu et de ce que nous pouvons vivre du royaume de Dieu. Je vous propose de remettre en perspective ce qui, d'une part, appartient à l'histoire, d'autre part, ce dont nous héritons de la tradition, et enfin, ce qui relève de la lumière que Dieu met en chacun d'entre nous. Regardons tout d'abord l'histoire et le chemin suivi par Jésus. À l'issue de son baptême par Jean et à la crise mystique qui s'ensuit, toute la trajectoire du prophète Josué nous révèle deux choses. En premier lieu, son extraordinaire intimité avec Dieu, Dieu qu'il appelle Abba, c'est-à-dire Papa.
En deuxième lieu, un renversement théologique complet par l'annonce d'un royaume déjà présent et non plus d'une espérance dans un futur apocalyptique. Ainsi, sommes-nous face à deux questions essentielles du christianisme. Première question, de quel Dieu parlons-nous ? Deuxième question, de quel royaume parlons-nous ? Dans les textes, bien des propos de Jésus évoquent un royaume à venir, un royaume futur. Ainsi, chez Luc 11, 2, on peut lire « Que ton règne vienne ». Toujours chez Luc, dans les Béatitudes en 6, 21, on trouve « Heureux vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés ». Et chez Marc, en 14, 25, Jésus se projette dans un royaume clairement post-mortem. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. D'autre part, on ne compte plus les innombrables inclusions eschatologiques relatives au jugement dernier qui émaillent régulièrement les paroles de Jésus. En effet, dans le droit fil du peuple juif et de sa culture, il croit fermement au jugement dernier, jugement au cours duquel Dieu évaluera la fidélité de chacun. Mais, et c'est là l'essentiel, Jésus ne reste pas prisonnier de son environnement culturel. La pensée grecque et la philosophie qui l'accompagne introduisent une proximité tout à fait nouvelle avec la déité. Son intimité avec le divin façonne la pensée de Jésus en direction d'un Dieu non plus terrible et inaccessible, mais vers un Dieu d'amour, un Dieu proche de l'homme. Ce virage théologique, fondé sur le ressenti de la présence d'un Dieu si proche, aboutit logiquement à concevoir le royaume, non plus dans le futur, mais bien dans le présent, dans le temps à vivre. Ainsi, trouve-t-on, à parité dans les textes, un royaume déjà installé, un royaume actif dans la vie des hommes. Chez Luc 11, 20, Jésus dit « Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le règne de Dieu vient de vous atteindre. » Chez Matthieu 13, 16 à 17, « Heureux vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Toutefois, le risque d'une intimité aussi forte de l'homme avec le divin est de finir par confondre la déité avec son support, de confondre l'humain et le divin, jusqu'à finir par dissoudre Dieu dans l'homme. En effet, la pensée grecque bien présente dans le rapprochement de Dieu et de l'homme envisage la séparation entre les hommes et les dieux comme une frontière poreuse. D'ailleurs, la mythologie grecque abonde d'exemples de dieux se faisant passer pour des humains. Pour Jésus, dont l'osmose psychologique avec Dieu était totale, la question de la frontière entre le divin et l'humain ne se posait pas. En revanche, dès les tout premiers temps de la chrétienté, ce risque de dissolution de Dieu dans l'homme, cette possible absorption du sacré par le profane, est déjà tout entière contenue dans le commentaire du courrier de Paul aux Philippiens, en 2, 5, 9, et je vous l'ai déjà cité, mais je voudrais le reprendre. « Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'un esclave, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être retrouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, la mort sur la croix. Le terme « s'est dépouillé » est la traduction du mot grec « eknosen », du verbe « kenoo ». Et ça, « kenoo », ça veut dire « vider », « anéantir », « réduire à rien ». On est donc dans une traduction qui a considérablement affaibli la pensée initiale. Ainsi, à travers l'événement Christ, Dieu abandonne sa transcendance, abdique sa puissance, abolit sa gloire pour se placer dans l'homme. Après la catastrophe de la Shoah, une approche contemporaine identique à celle de Paul, celle de la rétractation de Dieu au profit de l'homme, de la responsabilisation de l'homme, se retrouve d'ailleurs chez les Juifs et donne lieu à tous les développements théologiques du Tzimtzum. Et pour finir, Luc en 17-20-21 ne dit pas autre chose. Aux pharisiens qui demandent « Quand viendra le règne de Dieu ?» Jésus répond « Le règne de Dieu ne viendra pas comme un fait observable. On ne dira pas « Le voici » ou « Le voilà ». En effet, le règne de Dieu est parmi vous. Alors là, revenons encore au texte grec, puisque c'est le texte de référence. Attardons-nous un peu sur la traduction de cette fin de phrase. Dieu est parmi vous. Le texte grec dit « entos humon », c'est-à-dire littéralement « au-dedans de vous ». Si Luc avait voulu dire « parmi vous », il aurait écrit « en mesoi humin » et non pas « entos humon ». Il y a donc une déformation volontaire de la traduction, comme si le sens du texte grec originel de Luc, affirmant une réalité spirituelle à l'intérieur de l'humain, avait une telle dimension libératoire, une telle puissance d'autonomie de chaque croyant, qu'elle devenait inacceptable. C'est ensuite cette position du royaume parmi vous et non plus en vous, qui sera pourtant défendue par les instances ecclésiastiques et donnera lieu à la tradition. On voit cependant, dans tous les textes du Nouveau Testament, la progression d'une pensée duale faisant passer d'un Dieu ancien, transcendant et tout-puissant à un Dieu d'amour, immanent, ayant investi l'humain au plus profond. Pour autant, cette révolution théologique ne sera redécouverte que récemment, deux millénaires de catholicisme ayant figé l'image de Dieu dans son archaïque posture d'une divinité néolithique. Alors pour nous, quelle est l'image de Dieu ? À force de se rapprocher de l'homme, quel est le risque de diluer la foi ? Aucune réponse toute faite à cela. À chacun de sentir où et comment se diffuse le divin. À chacun d'exercer son jugement, de pratiquer la liberté que nous donne Dieu. Il y a cependant une piste qui peut nous aider. Lorsqu'après la Pâque, l'homme Joshua devient l'événement Christ, la signification de l'événement Christ se diffuse dans toutes les manifestations existentielles, dans toutes les existences individuelles. Par l'action qu'il exerce au quotidien dans nos vies, Christ nous rend tangible la présence divine. C'est en cela qu'il nous met au plus près de Dieu. Mais au final, peu importe de savoir si Christ est d'essence divine ou non, il n'est pas non plus nécessaire de savoir jusqu'où Dieu a abandonné sa transcendance pour aller dans l'homme. Il n'est pas non plus nécessaire de savoir si Christ nous sauve parce qu'il est Christ, ou bien s'il est Christ parce qu'il nous sauve. Parce qu'au final, ce qui importe, c'est d'approcher vraiment Dieu. De l'approcher au plus près, que ce soit à travers Christ, ou directement, sans intermédiaire, tout comme Jésus nous en a montré l'exemple. D'approcher Dieu au plus près, parce qu'on en ressent les bienfaits immenses. Et de manière paradoxale, nous rapprocher de Dieu nous libère du besoin de nous représenter Dieu. Cette attitude mentale, cette tension vers le divin, nous replace au plus près de la vie, juste dans le royaume, juste dans la présence de Dieu. Luc nous l'a dit, le royaume est déjà là, bien présent, à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ne serait-ce pas ça la bonne nouvelle ? Amen.
Alors, pour prolonger cette, merci Olivier, cette magnifique prédication, nous allons nous lever pour entonner le cantique 31-29, « Mon Rédempteur est vivant », à la page 452, et nous chanterons les 5 strophes. Ah non, alors c'est pas ça.
31-29.
Non, c'est « Mon Rédempteur est vivant », donc je, le numéro, je me suis trompé. Bon, alors. Voilà, petit... c'est des aléas du direct, donc je vais chercher, je vais vous dire le numéro et la page. Alors, 34-15. À la page 452, c'était la bonne page. Depuis notre plus tendre enfance, nous avons acquis le réflexe de prendre. Prendre le pain, prendre la nourriture et bien d'autres choses. Mais l'homme adulte doit aussi découvrir la joie de donner. De donner. La joie profonde qui est contenue dans le geste du don. Don de ce qui nous appartient et don de nous-mêmes. Véritable conversion de nos vies sur les traces du Christ qui savait si bien donner sans rien réclamer en retour. que notre offrande soit aujourd'hui encore une étape pleine de sens sur la joyeuse route du partage et du don gratuit. Amen. Voici le temps des annonces. Merci Olivier pour ta prédication. Merci Marie-Vonne pour ta musique. Merci Florence pour avoir assuré l'accueil. Et puis Frédéric et Pierre qui nous ont bien secondés. Groupe prière, mercredi à 18h au Temple. Et puis une annonce importante. Un pasteur qui s'intéresse à notre paroisse, qui s'appelle Thibaut de la Ruelle, qui est pasteur à Nice. Vous pouvez essayer de, voilà, de vous renseigner, aller voir sur Internet, écouter ses prédications. Il viendra rencontrer le conseil presbytéral le dimanche 1er août. Il rencontrera à cette occasion une grande partie du conseil. Il serait bien que vous soyez nombreux pour le rencontrer ici au temps, puisqu'il assurera le culte. Voilà. N'hésitez pas à faire de la publicité autour de vous. On va envoyer un mail à toute la paroisse. Hein. C'est à l'occasion d'avoir un mail au milieu d'été. Mais n'hésitez pas, il n'y a rien de mieux que le bouche à oreille, je pense. Voilà. On soit nombreux ce jour-là pour nous faire une idée et puis cheminer ensemble. Il y a une annonce encore. Excusez-moi, j'avais oublié Laurette. Pardon, Laurette.
Alors, pour témoigner de la présence du royaume de Dieu sur terre, les églises chrétiennes, donc orthodoxes, catholiques et protestantes, ont décidé de consacrer la fin du mois de septembre, le début du mois d'octobre, à célébrer le temps de la création. Pour ce qui est de l'église protestante, nous proposons d'organiser une cérémonie œcuménique le vendredi 17 septembre. Ça vous sera rappelé d'ici là. Mais pour aujourd'hui, Marie-Françoise Pradet et moi-même, nous proposons de nous rencontrer avec les personnes intéressées qui souhaiteraient participer à l'élaboration de cette cérémonie, à se retrouver dans la petite salle à gauche en sortant, à la sortie du culte. Voilà. Merci. Si vous pouvez vous joindre à nous, soit aujourd'hui, soit en tout cas le 17 septembre.
Merci Laurette. Alors, il semblerait que j'ai oublié quelque chose d'important. Oui. Bon, du coup, on va se relever pour confesser notre foi. C'est quand même important, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas mis au bon endroit, je pense. En fait, non, c'est pas ça. C'est que j'étais tellement pressé de faire l'offrande que j'ai oublié la confession. Bon. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre avec nous. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité aujourd'hui et pour toujours. Il est avec nous. Je crois en l'Esprit Saint qui nous assemble dans l'Église et nous fait vivre. Et nous chantons « Mon seul abri, c'est toi ». Merci Seigneur pour ton amour qui nous a inspiré ce geste de don de tout à l'heure. Amen. Prions les uns pour les autres. Seigneur, maintiens éveillé en nous l'esprit de clarté qui nous stimule pour la vérité. L'esprit de discernement qui nous engage aux décisions selon l'Évangile, l'esprit de force qui nous inspire le courage des portes étroites. Maintiens éveillé en nous l'esprit de conseil qui nous jette au secours du prochain accablé, l'esprit de prière qui nous entraîne dans ta proximité, notre Dieu, l'esprit d'attente et de désir qui place notre foi et notre espérance en alerte. Car Dieu vient à toute heure et par de bien mystérieux chemins. Maintiens éveillé en nous l'esprit d'amour qui tient notre visage tourné toujours vers le Père du ciel et vers nos frères de la terre, et permets-nous de redire avec une ardeur renouvelée la prière que tu nous as enseignée.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissons pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'on appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Je vous invite à vous lever pour recevoir l'envoi et la bénédiction de la part du Seigneur, avec tout d'abord un texte de Luther, très court. Priez, comme si travailler, militer, se battre ne servait à rien. Et travaillez, militez, battez-vous, comme si prier ne servait à rien.
Que son amour vous conduise, vous soutienne et vous accompagne. Que le Dieu de la paix, de l'amour et de l'espérance vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Et nous chantons le dernier spontané. Tu nous appelles à t'aimer. C'est le 36-30.
Tu nous appelles à t'aimer. Oh, viens-moi le monde où tu nous envoies. Oh, lieu fidèle, donne-nous. Oh, viens-moi le monde de l'aimé que toi.
À tous.
Merci.